is a song that comes from Tanzania. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ingekuwa maliwe.
Galère, galère. Bonjour, bonjour chères auditrices et chers auditeurs de Radio Galère pour cette émission Livres et Amis du mercredi 9 août 2023. Nous avons eu beaucoup de Mistral et l'annulation de beaucoup d'activités de plein air la semaine dernière. Eh bien, cette semaine, la vie reprend plus tranquillement et je vais à nouveau vous recommander de consulter le site de la ville de Marseille, pour l'été marseillais et pour ciné plein air. Et à nouveau aussi, jusqu'au 15 août, les concerts gratuits sur les routes de Provence dans le cadre du Festival de la Roque d'Anthéron avec le département. Nous ne serons pas en direct la semaine prochaine, mais il y aura un beau programme à la Friche. Hein. À la Friche, il y a toujours des tas de choses qui se passent. Et nous, nous enverrons une émission ou nous enverrons une rediffusion. Enfin, vous verrez ce que vous entendez le mercredi à 11h sur Radio Galère. Ça sera toujours Livres et Amis. Alors, consultez donc nos programmes culturels de Marseille, de la Friche, de la Belle de Mai. Et pour nos lectures, aujourd'hui, Dominique et Françoise, avec Angèle à la technique, et avec, encore une fois, des nouvelles, cette fois, d'une autrice africaine, nigériane, militante des droits des femmes et surtout de leur droit à l'éducation. C'est Chimamanda Ngozi Adichie. Et en fait, c'est une autrice très connue, surtout par les anglophones, puisqu'elle écrit en anglais, mais également maintenant en Europe et aux États-Unis. Dans l'actualité, ces jours-ci, c'est vrai, on parle surtout du Niger. Mais parler du Niger, c'est évidemment une occasion de parler du Nigeria, puisque à la CEDEAO, c'est le plus grand pays, c'est le plus riche, c'est celui qui a la plus grande armée. Et donc, c'est vrai que dès qu'on parle de l'Afrique de l'Ouest, ben, on parle du Nigeria. Et à propos du Niger, on parle du Nigeria. J'espère que ça ne va pas se passer trop mal en Afrique de l'Ouest. Mais enfin, c'est vrai que le problème, et c'est ce qu'on retrouve dans bien des nouvelles qu'on va lire aujourd'hui, c'est l'instabilité politique, l'instabilité de la société civile même, avec des guerres, avec des coups d'État qui, dans le passé, ont poussé bien des Nigérians sur les routes de l'exil, comme d'autres Africains de l'Ouest. Les exilés politiques ou les exilés économiques du Nigeria s'étaient dirigés traditionnellement plutôt vers les îles britanniques, mais également, dans les 20 dernières années, beaucoup vers les États-Unis. Et ces conflits, ces exils, depuis la guerre du Biafra, mais avec les autres conflits qui ont suivi, comme la difficile situation des femmes, c'est ce qui ressort bien des nouvelles de Chimamanda Ngozi Adichie que nous allons lire aujourd'hui. On y retrouve les références aux trois principales ethnies, les Haoussa du nord, surtout musulmans, les Igbo du sud, surtout chrétiens, et les Yoruba du centre et du sud. Mais il y a au Nigeria, vous le savez peut-être, plus de 500 groupes ethniques et donc plus de 500 dialectes. Et cette mosaïque de peuples et cette mosaïque d'affrontements, c'est ce qu'on retrouve donc dans bien des nouvelles qui reflètent les vies éclatées pour des raisons d'instabilité politique ou économique des personnes et des femmes en particulier qui vivent au Nigeria. Alors, au Nigeria comme ailleurs, bien sûr, il y a surtout cette opposition entre riches et puissants, d'une façon ou d'une autre, d'une part, et puis la population pauvre et exploitée, d'autre part. Donc, tous ces aspects, on va les retrouver évoqués dans cette mosaïque nigériane dont les nouvelles que nous allons voir maintenant, donc nous rendre compte. Donc nous allons écouter la première avec Françoise.
J'étais à l'université sur le béton de l'économat. J'étais là pour m'enquérir de ma pension de retraite une fois de plus. « Bonjour, prof », m'a dit Ugwoke, l'employé maigre et desséché. « Désolé, l'argent n'est pas arrivé. » L'autre employé, dont je ne me rappelle plus le nom, a hoché la tête et s'est excusé, lui aussi, tout en mâchant un lobe de noix de colard rose. Ils avaient l'habitude, j'avais l'habitude, tout comme les hommes en haillons regroupés sous le flamboyant qui discutaient d'une voix forte en gesticulant. Le ministre de l'Éducation a volé l'argent des pensions, a dit un des gars. Un autre a dit que c'était le président de l'université qui avait déposé l'argent dans des comptes personnels fortement rémunérés. Ils ont maudit le président. Son pénis va se tarir. Ses enfants n'auront pas d'enfants. Il mourra de diarrhée. Lorsque je les ai rejoints, ils m'ont salué en hochant la tête, l'air de s'excuser de la situation, comme si ma retraite de professeur était, d'une certaine façon, plus importante que leur retraite de coursier ou de chauffeur. Ils m'appelaient prof, comme la plupart des gens, comme les vendeurs assis sous l'arbre à côté de leur plateau. « Prof, prof, viens acheter, bonne banane !» J'ai bavardé avec Vincent, qui avait été mon chauffeur pendant 3 ans quand j'étais doyen de faculté dans les années 80. « Pas de pension depuis 3 ans, prof, » a-t-il dit. « C'est pour ça que les gens meurent quand ils prennent leur retraite. »« Au joka, » ai-je répondu, même s'il n'avait pas besoin de moi pour savoir que c'était terrible. « Comment va Nkiru, prof ? J'espère qu'elle se porte bien en Amérique. » Il me demande toujours des nouvelles de notre fille. Il nous conduisait souvent, ma femme Ebere et moi, lui rendre visite à la faculté de médecine d'Enugu. Je me souviens qu'à la mort d'Ebere, il était venu avec sa famille pour Galou et avait fait un discours émouvant, bien qu'assez long sur Ebere, disant qu'elle l'avait toujours bien traité quand il était notre chauffeur, qu'elle lui donnait les vieux vêtements de notre fille pour ses enfants. « Nkiru va bien, » ai-je dit. « S'il vous plaît, donnez-lui le bonjour de ma part lorsqu'elle appellera, prof. Je n'y manquerai pas. » Il a parlé encore un moment de notre pays qui n'avait pas appris à dire merci, des étudiants des foyers qui ne le payaient pas à temps quand ils réparaient leurs chaussures. Mais ce qui retenait mon attention, c'était sa pomme d'Adam qui faisait le yo-yo de façon inquiétante, comme si d'un instant à l'autre, elle allait percer la peau ridée de son cou et s'éjecter. Vincent est plus jeune que moi. Il doit avoir entre 65 et 70 ans, mais il en paraît davantage. Il n'a plus beaucoup de cheveux. Je me souviens bien de son bavardage incessant quand il me conduisait au travail à l'époque. Je me souviens aussi qu'il adorait lire mes journaux, habitude que je n'encourageais pas. « Prof, tu veux pas nous acheter banane ? La faim nous tue !» a dit un des hommes rassemblés sous le flamboyant. Son visage me rappelait quelque chose. Je crois que c'était le jardinier de mon voisin, le professeur Igéré. Malgré son ton mi-taquin, mi-sérieux, j'ai acheté une livre d'arachide et une main de banane et je les leur ai données, même si ce dont les hommes avaient tous vraiment besoin, c'était de lait hydratant. Leurs bras et leurs visages étaient de cendre. On est bientôt en mars, mais la saison de l'harmattan est loin d'être finie. Le vent sec, l'électricité statique qui fait crépiter mes vêtements, la fine poussière sur mes cils. J'ai mis plus de lait que d'habitude aujourd'hui et de la vaseline sur mes lèvres, mais ça n'empêche pas la peau de mon visage et de mes paumes de tirer. « Merci, prof, » ont dit les hommes. Puis ils se sont mis à débattre de qui ferait le partage en se moquant les uns des autres. Je me suis attardée à les écouter. Je me rendais bien compte qu'ils s'exprimaient plus convenablement à cause de ma présence. La menuiserie n'allait pas fort, les enfants étaient malades, encore des ennuis avec les prêteurs. Ils riaient souvent, bien sûr, ils nourrissent du ressentiment, et à juste titre, mais étrangement, cela n'a pas entamé leur bonne humeur. Je me demande souvent si je serais comme eux, sans les économies que j'ai pu faire sur mes émoluments au Bureau fédéral des statistiques, et si Nkiru ne s'obstinait pas à m'envoyer des dollars dont je n'ai pas besoin. J'en doute. Je me serais sans doute recroquevillée comme une tortue dans sa carapace et j'aurais laissé ma dignité partir en pièces.
Situation typique de certains pays pauvres, en effet, les salaires ou les pensions des fonctionnaires ne sont pas payés pendant 2 à 3 ans. Mais tout de même, les anciens profs s'en tirent mieux que les simples employés. Dans une autre nouvelle situation plus grave, dans notre deuxième lecture, nous allons voir une image de l'arbitraire du pouvoir et en particulier de l'arbitraire policier. On est encore à Nsukka, près de l'université de Egubu, donc, et ce sont encore des membres d'une famille d'universitaires qui sont au centre de la nouvelle. La situation au départ, c'est que dans cette famille, il y a donc le couple de parents et puis une jeune femme qui fait des études et un jeune homme qui fait des études aussi, mais de façon pas très sérieuse. C'est donc l'image d'un jeune bourgeois plutôt privilégié, un petit peu délinquant sur les bords, un petit peu fumeur, vous voyez ce que je veux dire, etc., qui a peut-être des fréquentations un peu dangereuses de temps en temps et qui fait aussi quelquefois des bêtises. En tout cas, il a été arrêté. Il a été arrêté avec d'autres jeunes, mais le problème de la situation, c'est qu'il a été arrêté dans une situation d'arbitraire total. Et que là où nous prenons la nouvelle, eh bien, les parents n'ont aucune nouvelle de lui, justement. Il est arrêté, il est emprisonné. Les parents ont su que d'une façon ou d'une autre, il n'était pas trop maltraité, mais que dans la prison où il est retenu, il y a des conditions de vie bien pires dans la cellule numéro 1, qu'on appelle la cellule 1. Et puis un jour, donc la situation perdure quelques semaines, les parents finissent par obtenir un droit de visite et ils ont même le lendemain l'information que leur fils va être libéré. Ils se rendent donc à la prison. Le policier s'est levé. Je vais appeler mon supérieur pour qu'il vous explique. Ma mère s'est ruée sur lui et l'a empoignée par la chemise. Où est mon fils ? Où est mon fils ? Mon père l'a décomprimé. Et le policier a épousté sa chemise comme si elle y avait laissé des saletés, avant de tourner le dos et de s'éloigner. « Où est notre fils ?» a demandé mon père, mais d'une voix très calme et même glaciale, si glaciale que le policier s'est arrêté. « Ils l'ont emmené, monsieur, » a-t-il dit. « Ils l'ont emmené ?» est intervenue ma mère qui criait toujours. « Qu'est-ce que vous racontez ? Avez-vous tué mon fils ? Avez-vous tué mon fils ? Où est-il ? » a demandé mon père de la même voix calme. « Où est notre fils ?»« Mon supérieur m'a dit de l'appeler quand vous viendriez. J'y vais, » a répondu l'agent. Et cette fois-ci, il a tourné les talons et disparu rapidement par une porte. C'est après son départ que la peur m'a glacée, que j'ai eu envie de lui courir après et, comme ma mère, de l'agripper par sa chemise jusqu'à ce qu'il nous ramène Namibia. L'officier de police supérieur est entré et j'ai scruté son visage totalement dénué d'expression. « Bonjour, monsieur, » a-t-il dit à mon père. « Où est notre fils ?» a demandé mon père. Ma mère respirait bruyamment. Plus tard, je me rendrai compte qu'à ce moment-là, chacun d'entre nous soupçonnait à part soi que Namibia avait été abattu par des policiers à la gâchette facile et que la tâche de cet homme était de trouver le meilleur mensonge à nous raconter pour expliquer sa mort. « Pas de problème, monsieur. Nous l'avons transféré, c'est tout. Je vais vous y emmener tout de suite. » Le policier était un peu tendu. Son visage demeurait vide d'expression, mais il évitait le regard de mon père. « Transféré ? » ?»« Oui, nous avons reçu un ordre d'élargissement le concernant ce matin, mais il avait déjà été transféré, hier. Comme nous n'avons pas d'essence, j'attendais votre venue et votre voiture pour que nous allions ensemble là où il est maintenant. Où est-il ? Dans d'autres locaux. Je vais vous y emmener. Mais pourquoi a-t-il été transféré ? Je n'étais pas présent, monsieur. Il paraît qu'il s'est mal conduit et qu'on l'a placé en cellule 1. Puis il y a eu un autre transfert de tous les gens de la cellule 1 vers d'autres locaux. Mal conduit ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je n'étais pas présent, monsieur. Ma mère a alors pris la parole d'une voix brisée. Mais emmenez-nous ! Emmenez-moi voir mon fils ! Emmenez-moi voir mon fils tout de suite ! Nous sommes montés en voiture, je me suis assise à l'arrière avec le policier. Il dégageait la même odeur que le vieux camphre de la malle de ma mère, qui semblait ne jamais vouloir s'éventer. À part les indications qu'il a données à mon père, nous n'avons pas parlé de tout le trajet d'environ un quart d'heure. Et mon père a conduit extrêmement vite, aussi vite que battait mon cœur. La petite concession où nous sommes arrivés avait l'air à l'abandon, avec des plaques d'herbes folles, jonchées comme elles l'étaient, de vieilles bouteilles, de sacs plastiques, de papier. C'est à peine si le policier a attendu que mon père arrête la voiture pour ouvrir la portière et descendre en toute hâte, et la peur m'a glacée de nouveau. Nous étions dans la partie de la ville où les routes ne sont pas goudronnées, où aucun panneau n'annonce commissariat de police, et il y avait dans l'air une immobilité, un étrange sentiment de vide. Mais le policier est revenu, avec Namabia. Il était là, mon séduisant frère, qui marchait vers nous, égal à lui-même, m'a-t-il semblé, jusqu'à ce qu'il soit assez près pour que ma mère le serre dans ses bras et que je le voie reculer. Assez brutalement. Son bras gauche et même son épaule droite étaient couverts de marques qui avaient l'air gonflées et il y avait du sang séché autour du nez. « Naboy, pourquoi ils t'ont battu comme ça ?» a demandé ma mère qui s'est tournée vers le policier. « Pourquoi vous avez fait ça à mon fils, vous autres ?» L'homme a haussé les épaules, affectant une insolence nouvelle. À croire que jusqu'alors, il avait eu des doutes sur l'état de Manamabia, mais maintenant, finalement, ça pouvait aller. Vous ne savez pas élever vos enfants correctement. Vous tous qui vous croyez importants parce que vous travaillez à l'université. Quand vos enfants se conduisent mal, vous vous imaginez qu'ils ne doivent pas être punis. Vous avez de la chance, madame. Beaucoup de chance qu'on l'ait relâché. Allons-nous-en, a dit mon père. Il a ouvert la portière, Namabia est montée et nous sommes rentrés à la maison. Mon père ne s'est arrêté à aucun des postes de contrôle de la police sur la route. Une fois, en nous voyant passer à toute vitesse, un policier a agité son fusil d'un geste menaçant. La seule chose qu'a dite ma mère durant ce trajet silencieux fut « Namabia, tu veux qu'on s'arrête à Ninth Mile ?» Namabia a répondu que non. Nous étions arrivés à Nsuka lorsqu'il a enfin parlé. Hier, les policiers ont demandé au vieil homme qui était en cellule avec nous s'il voulait un seau d'eau gratuit. Il a dit oui. Alors ils lui ont dit de se déshabiller et de défiler dans le couloir. Certains des compagnons de cellule riaient, mais d'autres ont dit que c'était mal de traiter un vieil homme comme ça. Namabia s'est tue, le regard lointain. J'ai pris la parole et j'ai engueulé le policier. J'ai dit que le vieil homme était innocent et malade et que de toute façon ça servait à rien de le garder là et qu'il ne trouverait jamais son fils vu que personne ne savait où il était, son fils. Ils m'ont dit de me taire immédiatement ou ils me mettraient en cellule 1. Je m'en fichais et je ne me suis pas tue. Alors, ils m'ont sorti, ils m'ont battu et ils m'ont mis en cellule 1. Namabia s'est tue et nous ne lui avons rien demandé d'autre. Au lieu de quoi, je l'ai imaginé, élevant la voix, traitant le policier d'imbécile, crétin, lâche, dégonflé, sadique, salaud. Et j'ai imaginé la stupeur des policiers, la stupeur du chef, bouche bée et yeux écarquillés. La stupeur de ses compagnons de cellule, sidérés par l'audace du beau gosse venu de l'université. Et j'ai imaginé le vieil homme, assistant à cela avec une fierté étonnée, mais refusant ensuite calmement de se déshabiller. Namabia ne nous a pas dit ensuite ce qui lui était arrivé en cellule 1, ni ce qui était arrivé dans les nouveaux locaux, ni ce qui était arrivé à ses compagnons de cellule. Ces nouveaux locaux, ça me faisait l'effet d'un lieu où on retenait les gens qui allaient disparaître plus tard. Et finalement, ça aurait été tellement plus facile pour lui, mon charmant frère, de se tirer un drame joliment ficelé de cette histoire, de s'en inspirer pour écrire un joli texte. Mais non, il a accompli autre chose. Situation plus grave, donc, avec cette image d'un jeune étudiant, pas très sérieux au début, mais qui, finalement, prend conscience de la gravité de la situation, prend conscience des problèmes sociaux, on l'a vu, qui font que la police peut faire, entre guillemets, n'importe quoi, et surtout en prendre à ses aises avec les gens du peuple et imposer leur autorité, justement, à des personnes de la population qui ne peuvent pas réagir et qui ne peuvent pas se défendre. Alors, on va voir ça dans le clip qui accompagne la musique qu'on va écouter. On va écouter la musique de Keith Daniel, qui est un des chanteurs de Guala Gualada. Et vous verrez, enfin, si vous regardez le clip, par curiosité, je l'indiquerai dans le texte, vous verrez qu'il représente bien justement les images contrastées du pays. Et donc, retrouvons la musique qui, elle, est plus douce que les images.
I enter from my butcher, go kwa lata. Only mota kasu face ya wata. I no fit for some if it don't pass my power. I roll up a shawarma, I get for kwa lata.
I enter from my butcher, go kwa lata. Only mota kasu face ya wata. My power, I roll up my shawarma. I dey for kwakwa lata.
Nufo, Olana, on God. Ile ni let me ask God. I live flame, ujama shami, fume no ya chami. Wahabi, I look, mukada muvato. Can't you see? Maripi, I'm your manager. Love this song to my Lucia. Love you, is a cry. Baby, don't you waste my time. I see my boots are open. I'm not pay as soon as I did for Gakwalata. Call me back, Matapata.
I enter from my butcha, Gakwalata. Only mota kasu face, ya wanta. I know fit for some.
S'arrête comme ça. Donc, Keith Daniel, Gwagwalada. Et tout à l'heure, vous aurez un autre extrait du, disons, des chansons actuelles du Nigeria avec Burna Boy. Donc, voilà, en attendant, on reprend nos lectures. Dans la troisième lecture, donc, il s'agit d'une nouvelle qui se passe à Kano. Kano, c'est une ville du nord, plutôt en territoire Haoussa, mais où il y a aussi d'autres populations, bien sûr. Et dans cette nouvelle, il y a deux jeunes femmes plutôt privilégiées de la bonne société Igbo du Sud, comme on l'a déjà vu dans nos nouvelles précédentes, qui se rendent à Kano chez une tante Et alors qu'elles sont en séjour chez leur tante, elles décident d'aller se promener au marché. Or, en fait, au marché, tout à coup, éclate une émeute spontanée. Et la jeune femme qui parle, enfin, ou plutôt la jeune femme dont on parle, qui s'appelle Chika, cette jeune femme va se trouver prise dans l'émeute et va être complètement bouleversée par ce qui se passe dans les heures qui suivent l'émeute. En fait, on se rend compte ici que c'est vraiment ce quotidien qui est en permanence menacé, ce quotidien de la population nigériane qui risque à chaque instant d'être bouleversé, en effet, par la violence, par l'émeute, par l'attentat, etc. Donc, la violence quasi permanente, on la touche du doigt avec cette nouvelle. Et je vous parlais du personnage de Chika. C'est aussi ce qui est intéressant dans le recueil de nouvelles de Chimamanda Ngozi Adichie qu'on lit aujourd'hui. C'est que les locuteurs sont différents. Aussi bien ça peut être comme ici un genre de narrateur absent qui nous parle de quelqu'un, donc Chika à la troisième personne. Ça peut aussi être un narrateur très présent qui s'adresse au personnage principal à la deuxième personne du singulier. Ça peut être comme un narrateur, lui ou elle-même, qui parle à la première personne du singulier. Donc c'est vrai qu'ici, on a un récit un petit peu traditionnel, avec un récit à la troisième personne, mais il n'empêche qu'il faut souligner cette variété des narrateurs et des locuteurs dans les nouvelles de Chimamanda Ngozi Adichie. C'est aussi ce qui fait l'intérêt de ces narrations. Donc je vais repasser la parole à Françoise pour la lecture de cette nouvelle qui se passe à Kano.
Chika enjambe la première, la fenêtre du magasin, puis elle tient le volet à la femme qui se hisse derrière elle. Le magasin semble avoir été abandonné bien avant le début des émeutes. Les rangées d'étagères en bois sont vides et couvertes de poussière jaune, tout comme les conteneurs en métal empilés dans un coin. Le magasin est petit, plus petit que le dressing de Chika à la maison. La femme grimpe à l'intérieur et les volets de bois grincent quand Chika les lâche. Les mains de Chika tremblent, ses mollets sont en feu d'avoir couru depuis le marché, en équilibre instable sur ses hauts talons. Elle veut remercier la femme de l'avoir arrêtée, alors qu'elle passait en flèche devant elle, de lui avoir dit « Allez pas par là !» et de l'avoir amenée à ce magasin où elles peuvent se cacher. Mais avant qu'elle puisse la remercier, la femme dit, portant la main à son cou nu « J'ai perdu mon collier en courant et... » « J'ai tout lâché, » dit Chika. « J'étais en train d'acheter des oranges et j'ai lâché les oranges et mon sac à main. » Elle n'ajoute pas que le sac était un Burberry, un original que sa mère avait acheté lors d'un récent voyage à Londres. La femme soupire et Chika suppose qu'elle pense à son collier, sans doute des perles en plastique enfilées sur un cordon. Même sans son fort accent à Oussa, Chika voit qu'elle est du Nord, à son visage étroit, à la hauteur inhabituelle de ses pommettes, et qu'elle est musulmane, à son foulard. Celui-ci pend à son cou à présent, mais il était sans doute drapé autour de sa tête avant, et lui couvrait les oreilles. Un long foulard de tissu léger, rosé noir, qui a le charme criard des choses bon marché. Chika se demande si la femme la regarde elle aussi, si la femme voit, à son teint clair, et à la bague chapelée en argent qu'elle porte à la demande de sa mère, qu'elle est Ibo et chrétienne. Plus tard, Chika apprendra que pendant qu'elles parlent toutes les deux, des musulmans à Oussa massacrent des chrétiens Ibo à coups de machette, leur tapent dessus avec des pierres. Mais là, elle dit « Merci de m'avoir appelée. Tout s'est passé si vite. Tout le monde s'est mis à courir et soudain, je me suis retrouvée seule sans savoir quoi faire. Merci. » Ici, c'est sûr, dit la femme d'une voix si basse que c'en est presque un murmure. Eux, là, ils vont pas dans petits magasins, ils vont seulement dans grands magasins et marchés. Oui, répond Chika. Les mains de Chika tremblent encore. Il y a à peine une demi-heure, elle était au marché avec Neddy. Elle choisissait des oranges tandis que Neddy s'était enfoncé un peu plus loin pour acheter des arachides. Et puis des cris avaient éclaté, en anglais, en pidgin, en haoussa, en ibo. Bagarre, problème arrive, oh, ils ont tué homme. Et tout d'un coup, les gens qui l'entouraient couraient, se bousculaient, renversaient des brouettes pleines d'ignames, abandonnaient des légumes abîmés qu'ils venaient de marchander âprement. Chica avait senti la peur et la sueur, et elle s'était mise à courir, elle aussi. Elle avait traversé des rues larges, était entrée dans celle-ci étroite, et elle le craignait, le sentait, dangereuse, jusqu'au moment où elle avait vu la femme. Plus tard, quand Chica en viendra à regretter que Neddy et elle aient eu l'idée d'aller au marché en taxi, rien que pour voir un peu la vieille ville de Cano, en dehors du quartier de leur tante, elle regrettera aussi qu'Alima, la fille de la femme, n'ait pas été malade, fatiguée ou paresseuse ce matin-là, ce qui l'aurait empêchée de vendre des arachides ce jour-là. La femme s'essuie les yeux avec un pan de son chemisier. « Qu'Allah garde ta sœur et Alima en lieu sûr, » dit-elle. Et comme Chica ne sait pas trop ce que disent les musulmans pour exprimer leur accord, ça ne peut pas être « Amen », elle se contente de hocher la tête. La femme a découvert un robinet rouillé dans un coin du magasin, près des conteneurs en métal. Peut-être là où le commerçant se lavait les mains, dit-elle, en expliquant à Chica que les magasins de cette rue ont été abandonnés il y a des mois de cela, quand le gouvernement les a déclarés structures illégales vouées à la démolition. La femme ouvre le robinet et toutes deux regardent, avec surprise, un filet d'eau s'étirer. Brunâtre et si métallique que Chica en sent déjà l'odeur. Il n'empêche, ça coule. « Je me lave et je prie, » dit la femme, d'une voix plus forte à présent, et elle sourit pour la première fois, découvrant des dents régulières comme celles du devant tachées de brun. Ses fossettes s'enfoncent dans ses joues, assez profondes pour avaler la moitié d'un doigt, inattendue sur un visage aussi mince. La femme se lave maladroitement les mains et la figure au robinet, puis elle retire son foulard de son cou et le pose par terre. Chica détourne les yeux. Elle sait que la femme est à genoux, dans la direction de la Mecque, mais elle ne regarde pas. C'est comme les larmes de la femme, une expérience intime, et elle regrette de ne pas pouvoir quitter le magasin, ou de ne pas pouvoir prier, elle aussi, croire en un Dieu, voir une présence omnisciente dans l'air confiné du magasin. Elle ne se souvient pas d'un moment où son idée de Dieu n'ait été floue, comme un reflet dans un miroir de salle de bain embué, et elle ne se souvient pas d'avoir jamais tenté d'essuyer le miroir. Elle touche la bague chapelet qu'elle porte encore, au petit doigt parfois ou à l'index, pour faire plaisir à sa mère. Neddy ne porte plus la sienne, elle qui a dit une fois en riant de son rire de gorge, « Les chapelets, c'est rien d'autre que des potions magiques, et j'ai pas besoin de ça, merci. » Plus tard, la famille fera dire des messes à maintes et maintes reprises pour qu'on retrouve Neddy saine et sauve, mais jamais pour le repos de son âme. Et Chica repensera à cette femme en prière, la tête contre le sol poussiéreux, et elle renoncera à dire à sa mère que faire célébrer des messes est un gaspillage d'argent et que c'est juste une façon de procurer des fonds à l'église. Lorsque la femme se relève, Chica se sent étrangement revigorée. Plus de 3 heures se sont écoulées et elle s'imagine que l'émeute s'est calmée, que les émeutes se sont dispersées, que les émeutiers se sont dispersés. Il faut qu'elle parte, il faut qu'elle rentre à la maison et s'assure que Neddy et sa tante vont bien. « Il faut que je m'en aille, » dit Chica. À nouveau, l'expression d'impatience sur le visage de la femme. « Dehors, il y a danger. Je crois qu'ils sont partis. Je ne sens même plus l'odeur de fumée. » La femme ne dit rien. Elle se rassied sur le lapin. Chica l'observe quelques instants, déçue sans savoir pourquoi. Peut-être veut-elle que la femme lui donne sa bénédiction, quelque chose. « Votre maison est loin d'ici ?» demande-t-elle. « Oui, je prends 2 autobus. » Alors je reviendrai avec le chauffeur de ma tante et je vous reconduirai chez vous. » La femme tourne la tête. Chica se dirige lentement vers la fenêtre et l'ouvre. Elle s'attend à ce que la femme lui demande de s'arrêter, de revenir, de ne pas faire l'imprudente. Mais la femme ne dit rien et Chica sent ses yeux calmes dans son dos quand elle escalade la fenêtre. Chika n'est pas arrivée au bout de la deuxième rue dans la direction du marché qu'elle voit le corps. Elle manque ne pas le voir, s'en approche tellement qu'elle sent sa chaleur. Le corps doit avoir été brûlé très récemment. L'odeur est renversante, une odeur de chair rôtie comme elle n'en a jamais senti de pareil. Plus tard, quand elle parcourra tout Kano avec sa tante, un policier assis à l'avant de la voiture climatisée, elle verra d'autres corps, brûlés pour beaucoup, gisant dans le sens de la longueur contre le bord du trottoir, comme si quelqu'un s'était donné la peine de les pousser et de les aligner. Elle regardera un seul des corps, nu, raide, couché sur le ventre, et elle sera frappée de constater qu'elle ne peut dire si cet homme en partie brûlé est Igbo ou Haoussa, chrétien ou musulman, en regardant cette chair calcinée. Elle écoutera la BBC et entendra les bulletins et les morts et les émeutes religieuses sur fond de tensions ethniques, dira la voix. Et elle jettera la radio contre le mur, prise d'une fureur noire, devant la façon dont tout a été présenté, édulcoré, comprimé, pour faire tenir en si peu de mots tous ces corps.
Faire tenir en si peu de mots tous ces corps. C'est peut-être ce qu'on pourrait penser de bien des comptes rendus de ce qui se passe dans des pays africains où, comme à Kano, ça vient de se passer. Dans le récit de notre écrivaine. En fait, ces récits, en effet, qui sont, comme elle le dit, édulcorés parce qu'on ne peut pas toujours rendre compte de ce qui se passe dans les conflits qui se passent justement au Nigeria, au Mali, au Burkina Faso, au Niger, etc. etc. Alors, on va pas rester sur cette note si sombre quand même. On va redonner la parole à Chimamanda Ngozi Adichie pour un récit un peu plus souriant ou un peu plus ironique en tout cas, puisqu'il s'agit du compte-rendu d'une rencontre entre écrivains africains, jeunes écrivains africains prometteurs, pourrait-on dire, qui se déroule en fait en Afrique du Sud sous l'égide de la Grande-Bretagne. Donc, même si la Grande-Bretagne ne joue de rôle véritable qu'en tant que leader du Commonwealth ou de ce qu'on appelait dans le temps, ce qu'ils appelaient dans le temps le Commonwealth, c'est vrai que sur le plan culturel, la Grande-Bretagne a encore un rôle tout à fait phare, en particulier pour la publication des livres des auteurs ou des autrices africains. Donc, en fait, dans la nouvelle qui s'appelle « Jumping Monkey Hill », donc la colline du singe bondissant, dans cette nouvelle, donc, il y a une réunion de jeunes écrivains et écrivaines africains prometteurs, comme je le disais. Et notre autrice, Chimamanda Ngozi Adichie, en profite pour faire un portrait tout à fait ironique justement de la coordination britannique de cette rencontre. Le coordinateur britannique, il s'appelle Edward, c'est un homme d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain, et il a évidemment toujours un regard qui traîne sur les formes des jeunes femmes, des jeunes écrivaines africaines. Il a toujours un regard appuyé sur en particulier le corps de notre autrice, qui dans la nouvelle est un petit peu déléguée et s'appelle Ujunwa. Donc Ujunwa, c'est une jeune autrice nigériane qui participe au sommet. Et comme tous les autres, elle doit fournir à la fin du stage, pourrait-on dire, puisqu'il s'agit d'un sommet d'écrivains, mais aussi d'une résidence de création d'écriture, elle doit fournir une nouvelle. Donc on va précisément lire la nouvelle dans la nouvelle, c'est-à-dire la nouvelle que produit Ujunwa pour le sommet, enfin pour la rencontre des écrivains. Et on verra surtout la réaction du fameux Edward à la nouvelle. Kioma vit avec sa mère à Lagos. Elle a un diplôme d'économie de l'université de Nsukka. Elle a fini son service national de jeunesse depuis peu. Et tous les jeudis, elle achète The Guardian à la rubrique emploi, elle le passe au peigne fin et elle envoie son CV dans des enveloppes craft à toutes les entreprises qui peuvent être intéressantes pour elle. Les semaines passent, mais sans aucune réponse. Finalement, elle reçoit un coup de téléphone la convoquant à un entretien. Après les premières questions, l'homme dit qu'il va l'embaucher, puis il traverse la pièce, se place derrière elle et passe les mains par-dessus ses épaules pour lui ploter les seins. « Imbécile !» lui lance-t-elle entre les dents. « Vous n'avez aucun respect des hommes, des femmes, ni même de vous-même. » Et elle s'en va. Et les semaines de silence suivent. Elle donne des coups de téléphone et elle donne un coup de main à la boutique de sa mère. Elle envoie d'autres candidatures dans d'autres enveloppes. À l'entretien suivant, la femme, qui parle avec l'accent le plus artificiel et le plus idiot que Kioma ait jamais entendu, lui dit qu'elle cherche quelqu'un qui ait fait ses études à l'étranger. Et bon, ben évidemment, Kioma est à deux doigts d'éclater de rire en partant. Et puis encore quelques semaines de silence. Et puis Kioma, qui n'a pas vu son père depuis quelques mois, décide d'aller le retrouver à son bureau à Victoria Island pour lui demander s'il ne peut pas l'aider à trouver un travail. Leur rencontre est tendue. « Pourquoi tu n'es pas venu plus tôt, hein ?» lui demande-t-il en faisant semblant d'être fâché. « Parce qu'il lui est plus facile, elle le sait, d'être fâché. C'est plus facile de se fâcher contre les gens quand on leur a fait du tort. » Il passe quelques coups de fil, il lui donne une petite liasse de billets, il lui pose quelques questions sur comment va la famille, comment va sa mère. Et puis pendant ce temps-là, elle remarque sur le bureau la photo de sa nouvelle femme. Une femme à la peau claire, eh oui, elle a l'air métisse. Et le truc, finalement, c'est qu'elle n'est même pas jolie, mais enfin bon. Alors, elle sort du bureau de son père avec quelques recommandations. Et elle va bientôt rencontrer en effet une responsable marketing dans une grande banque qui lui dit qu'elle va pouvoir trouver un emploi si elle travaille avec une cadre déjà installée en allant avec elle à des rendez-vous pour placer des produits bancaires. Et donc, à ce moment-là, les deux femmes, la cadre confirmée et Unjunwa, notre jeune stagiaire, vont aller dans différentes entreprises pour placer leurs produits bancaires. En observant Yinka assise sur les genoux de Lalaji, Kioma a l'impression de jouer la comédie. Elle avait écrit des pièces au lycée. Sa classe en avait même mis en scène pour les fêtes d'anniversaire de l'école. Et à la fin, le public était très content. Kioma est notre future star, avait dit le directeur. Son père était présent, sa mère aussi, il souriait et applaudissait. Eh bien, elle a l'impression de ça. Elle a l'impression d'être au théâtre en voyant Yinka, une cadre confirmée, assise sur les genoux de son client, qui vient de l'inviter, en effet, à venir s'installer là. Ah là là, mais c'est vraiment pas possible. Comment étudier la littérature à l'université, comment étudier l'économie à l'université, peut-il conduire à cela ? On lui a dit qu'étudier, c'était une bonne chose et qu'elle pourrait toujours écrire à côté. Et là, cette fois-ci, le client passe doucement le doigt sur le bras de Yinka en disant « Vous savez, je suis très intéressée par votre produit, mais la Savannah Union Bank m'a aussi envoyé des gens la semaine dernière. » Alors Yinka sourit, continue à sourire, et Kioma se demande si elle n'en a pas mal aux joues à force de sourire. Elle pense à toutes les nouvelles qu'elle a écrites et qui sont rangées dans une boîte de métal sous son lit. C'était son père qui lui achetait des romans, c'était son père qui la poussait à écrire. Et maintenant, c'est son père qui l'a envoyé finalement démarcher avec sa collègue dans une société où, pour obtenir le placement d'un produit bancaire, il faut s'installer sur les genoux du client. Enfin, finalement, tout ce dont Kioma a raison, c'est une bonne formation. Kioma, dit Yinka. Alors, Kioma lève la tête. Le client parle. Il a l'air presque intimidé, il fuit son regard et tout d'un coup, quand même, il la regarde plus fixement. Et il a dû dire des choses à voix basse à Yinka. C'est maintenant Yinka qui parle. Ah, mais oui, en fait, ce qu'il dit, c'est que vous êtes vraiment très jolie. Il se demande pourquoi un homme important ne vous a pas déjà épousée. Et ce qu'il propose, c'est qu'il continue les affaires avec la Merchant Trust, mais qu'il la continue avec vous comme interlocutrice. Kioma ne sait pas trop quoi répondre. Mais bien sûr, dit Yinka au client, elle sera désormais votre interlocutrice. Nous occuperons bien de vous. Merci, merci monsieur, nous reviendrons la semaine prochaine. Et le client lui dit, j'ai rapporté des bons parfums de mon dernier voyage à Londres. Je pourrais vous en donner un ou deux la prochaine fois que vous viendrez à votre prochaine visite. Toutes les deux, mais Uyunia, bien sûr, aussi. C'est Kioma, en fait. C'est Kioma qui se lève. C'est Kioma qui se lève, le client se tourne vers elle. Il attend qu'elle le suive, mais elle ne le suit pas. Elle se tourne vers la porte, l'ouvre, et elle débouche dans la lumière vive du soleil à l'extérieur. Le chauffeur est là, dans la voiture, il écoute la radio. « Voyons, voyons, madame, il s'est passé quelque chose, lance-t-il » Elle ne répond pas. Elle monte même pas dans la voiture. Elle part en marchant. Elle marche, elle dépasse le grand portail, elle sort dans la rue, elle prend un taxi et elle va à l'agence bancaire débarrasser son bureau, pourtant presque vide. Donc voilà, la nouvelle dans la nouvelle, c'est ça. Et la nouvelle dans la nouvelle, c'est ce que lit Uyunwa quand elle est avec ses collègues écrivains et quand elle est avec le coordonnateur britannique. Et ce coordinateur dit « Mais toute l'histoire n'est pas vraisemblable. Enfin, à quoi ça ressemble ? Votre nouvelle, elle est au service d'une idée, mais ce n'est pas une histoire vraie sur de vraies personnes. » Alors, Uyunwa le regarde. Une histoire vraie sur de vraies personnes, dit-elle. La seule chose que j'ai omise dans l'histoire, c'est qu'après avoir quitté ma collègue et être sortie de la maison du client, de l'entreprise du client, en fait, j'ai effectivement trouvé un taxi et j'ai exigé de ce chauffeur qu'il me ramène à la maison. Parce qu'en effet, je savais que c'était la dernière fois que je mettais les pieds dans ce bureau de banque. Donc, en effet, voilà, c'est la conclusion. C'est finalement la façon dont, y compris d'une façon très bourgeoise et très acceptable, les femmes, au Nigeria comme ailleurs, sont des objets. Ça pourrait presque être intégré dans les nouvelles H24 qu'on avait lues la semaine dernière. Alors, elle était un peu longue, la nouvelle de Chimamanda Ngozi Adichie sur... notre employé de banque qui finalement n'est qu'un objet pour les clients. Mais sinon, c'est vraiment l'esprit. Et Ansuka ou à Egubu, donc dans ces villes universitaires et un peu privilégiées de ce qu'on appelle encore le Biafra, même si maintenant c'est un État inclus dans le Nigeria. Donc même dans la société privilégiée, bien sûr, les femmes restent des objets, et quelquefois aussi, comme on l'a vu dans la nouvelle précédente, des objets de violence. Donc on va aller rechercher la musique nigériane qui nous avait plu tout à l'heure, pour l'écouter jusqu'à la fin de notre émission. Ça sera suivi de notre générique et donc je vous donnerai des nouvelles la semaine prochaine, ou plutôt vous aurez des nouvelles la semaine prochaine. Vous verrez si c'est nous en direct ou en rediffusion. Et je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt.
Na me with the work for your job. Na me with the hug, no. so. Even as things could they go my way, even the days I don't get nothing at all. My Baloso. Now me wait, they drive your bus. Now me wait, they drive your keke.
Bona boy.
My Baloso.
Bona boy, push your car.
Now me wait, they run around. Now me, they do the job. My Baloso.
Nothing at all. Okay. Be like a juju calabar. Give me moral like a be bouncer. Mon paragon. Take me high, I don't want to land. Until now, I don't understand it. Why, no matter what I do, it's not enough. If I do 99, could it go remain? Don't know how to show you my love without fucking up. While I am faded, I just ain't shaken.
Make you know they shall lie. I don't want nobody to give my matter like. For this life I day, I want to be celebrated. Don't wanna waste my days, I want to spend them on enjoyment. Baby, grab a
you. Only one of you.
Here's a song that comes from Tanzania.